temps perdu sans jamais vraiment vouloir s'évader. Laisser croire que ce monde nous avait complètement délaissé. On te dit de laisser aller, de séparer, nous reviendrons toujours. If you don't stop running, you are never gonna see them again.
Salut Victoria, vous écoutez CLS FM 107.9, votre radio communautaire francophone.
L'Association historique francophone de Victoria a reçu une subvention du gouvernement du Canada dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour un projet intitulé Souvenance, reconnaissance. Ce projet vise la clientèle des 55 ans et plus, qu'ils soient ou non membres de l'association historique. Il se veut une activité de souvenance, histoire commune et histoire personnelle, laquelle activité nous permettra de reconnaître la contribution des leaders ayant œuvré à l'installation d'une communauté francophone et à la promotion de la francophonie en Colombie-Britannique. Gisèle Sanson, archiviste et chargée de projet à l'Association historique francophone de Victoria, et moi-même, Marie-Hélène Bourret, serons là pour animer les rencontres mensuelles. Jeux de mémoire, histoires oubliées, petits films, chansonnettes et activités de reconnaissance des piliers de notre communauté seront au rendez-vous. La première rencontre aura lieu le 9 mai au locaux de la Société francophone de Victoria, au 12-18 rue Langley, dès 17h30. Un léger goûter sera servi. S'il vous plaît, réservez votre place avant le 6 mai en téléphonant au 250-507-8305 ou en écrivant à mhbourret@hfv.org.
Vous aimeriez en connaître plus sur l'histoire personnelle des grands compositeurs classiques? L'influence de la modernisation des instruments dans la musique de 1600 à aujourd'hui? Ne manquez pas Histoire classique avec Louise Alpin, diffusée 3 fois par semaine sur les ondes de CISFM.
Bonjour à tous les auditeurs francophones et francophiles de la grande région de Victoria. Merci de votre écoute pour cette édition des jeudis 4 mai et vendredi 5 mai dans l'émission Le Débrief. C'est Alexis Gagnon au micro, votre accompagnateur dans ce rendez-vous info quotidien. J'espère que vous profitez bien de la météo que nous avons eue jeudi. On reviendra d'ailleurs sur les prévisions d'Environnement Canada en fin d'émission. Pour l'heure, c'est l'embarquement immédiat dans Le Débrief. On débute dans quelques secondes avec la revue de presse internationale. Bonne émission à tous. Vous écoutez l'émission Le Débrief. Mon nom est Alexis Gagnon. Voici votre revue de presse internationale pour les jeudis 4 mai et vendredi 5 mai. Donald Trump se voit en arbitre du conflit israélo-palestinien. C'est un article qui paraît dans le journal Le Monde. Le président américain pour qui il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de paix au Moyen-Orient entre Israël et la Palestine a reçu le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas à Washington. L'heure est à l'espoir pour le conflit israélo-palestinien, écrit Le Monde. C'est le message que le président des États-Unis a voulu faire passer mercredi 3 mai en recevant à la Maison-Blanche Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. « Nous allons commencer un processus qui, nous l'espérons, conduira à la paix », a déclaré Donald Trump. « Au cours de ma vie, j'ai entendu dire que l'accord qui peut être le plus difficile est celui entre les Israéliens et les Palestiniens. Voyons si nous pourrons prouver que ceux qui pensent cela se trompe », a assuré Donald Trump au terme d'une courte déclaration proposant d'être un médiateur, un arbitre et un facilitateur. « Avec vous, nous avons de l'espoir », avait assuré auparavant Mahmoud Abbas dans une déclaration en anglais. Tout au long de la campagne présidentielle l'année dernière, Le Monde rappelle que Donald Trump n'avait cessé d'évoquer l'accord ultime que représente, selon lui, une paix israélo-palestinienne. Même si de nombreux experts du conflit israélo-palestinien, comme l'ancien émissaire américain Dennis Ross, jugent cette paix impossible et hors d'atteinte. Le président Trump avait utilisé cette formule, l'accord ultime, après son élection, dans un entretien accordé au Wall Street Journal le 11 novembre 2016. Il avait aussi évoqué un grand accord de paix à l'occasion de la visite à Washington du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou le 15 février dernier. Toujours dans les pages du quotidien Le Monde, Donald Trump pourrait assouplir une loi limitant l'activité politique des églises. La loi datant de 1954 empêche les établissements religieux exonérés d'impôts de soutenir officiellement un candidat lors d'une élection. Le Monde poursuit dans cet article, des membres de l'administration Trump ont annoncé mercredi 3 mai que le président américain pourrait signer dès jeudi un décret remettant en cause une loi de 1954 sur la capacité des établissements religieux à participer à des campagnes politiques sans plus de précision. Le décret interviendrait alors que jeudi est la journée nationale de la prière aux États-Unis. Le président Trump doit recevoir des leaders religieux à la Maison-Blanche à cette occasion. Aux États-Unis, les églises sont exonérées de l'impôt, mais ce statut peut leur être retiré en cas d'activité politique. L'amendement Johnson, comme on l'appelle, du nom de l'ancien président Lyndon Johnson, est pourtant peu appliqué. Donald Trump répondrait ainsi à une demande récurrente des chrétiens conservateurs, dont une grande partie a voté pour lui. Beaucoup d'entre eux estiment que l'amendement constitue une atteinte à leur liberté d'expression. Toujours aux États-Unis, la nouvelle directrice du planning familial de Donald Trump ne croit pas en la pilule anticonceptionnelle. C'est dans le journal Libération par la journaliste Léa Sabourin. L'administration Trump a confirmé la nomination de Theresa Manning, farouche militante anti-avortement, à la direction du programme qui permet aux femmes d'accéder à une contraception. Theresa Manning est la nouvelle directrice de planning familial qui dépend du ministère américain de la Santé. Problème pour cette ancienne professeure de droit, la contraception ne marche pas. Nommée par Donald Trump, elle va pourtant devoir gérer un budget annuel de 280 millions de dollars du programme d'aide prévu à cet effet. Activiste anti-avortement dans l'âme, Theresa Manning se positionne clairement en avocate du droit à la vie. Cette ancienne analyste juridique pour le Conseil familial de recherche et lobbyiste pour le Comité national pour le droit à la vie, deux organisations anti-avortement, ne croit pas non plus à l'efficacité de la pilule anticonceptionnelle. Désormais à la tête du planning familial, elle pourrait bien changer la ligne de conduite du programme Title X qui, en 2014, a permis à quelques 4 millions de femmes américaines aux revenus modestes d'accéder à un moyen de contraception. Retour dans les pages du journal Le Monde. La Russie, la Turquie et l'Iran s'accordent sur la création de zones de sécurité en Syrie. L'accord n'a été signé ni par les émissaires du régime de Damas, ni par les rebelles présents à Astana, la capitale du Kazakhstan. La Russie et l'Iran, écrit Le Monde, alliés du régime de Bachar al-Assad, et la Turquie, soutien des rebelles anti-Assad, ont adopté, jeudi 4 mai à Astana, au Kazakhstan, un accord de principe portant sur la création de quatre zones de escalades, comme on les appelle. Les chefs des délégations de trois pays parrains des pourparlers de paix d'Astana ont signé un mémorandum sur la création de zones de désescalade en Syrie, a déclaré le ministre des Affaires étrangères kazakh, Kairat Abrakhmanov. L'accord n'est en revanche signé ni par les émissaires du régime de Damas, ni par les rebelles présents à Astana. Le processus d'Astana, dont le but est de faire respecter un cessez-le-feu en Syrie, qui avait été conclu en décembre 2016, a été lancé. Ce processus a été lancé sous l'égide de Moscou, Téhéran et Ankara. De nouvelles discussions ont eu lieu à la mi-février et à la mi-mars. Ces dernières ont été boycottées par l'opposition anti-Assad. Le plan russe est apparu au grand jour mardi pendant une conversation téléphonique entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump. En Grèce, à présent, Tsipras appelle à un accord sur la dette grecque d'ici le 22 mai. C'est dans le fil de l'agence Reuters. Alexis Tsipras a appelé jeudi les créanciers internationaux d'Athènes à se mettre d'accord sur des mesures de restructuration de la dette grecque avant le 22 mai, lorsque les ministres des Finances de la zone euro se réuniront à Bruxelles pour examiner l'avancée du troisième plan d'aide à la Grèce depuis 2010. L'Eurogroupe devrait entériner à cette occasion l'accord conclu mardi entre Athènes et ses créanciers sur les réformes que le gouvernement grec doit entreprendre, ce qui permettra de débloquer des prêts dont la Grèce a urgemment besoin. Cet accord conclu avec des mois de retard sur le calendrier prévu a permis à l'Union européenne et au Fonds monétaire international, qui n'a pas encore dit s'il participerait au plan d'aide, d'entamer des discussions sur un allègement de la dette grecque. Des mesures d'allègement de la dette à moyen terme doivent être clairement définies d'ici à la réunion de l'Eurogroupe le 22 mai, a déclaré Alexis Tsipras. La Grèce a rempli sa part du marché et tous les acteurs doivent maintenant tenir leurs engagements, a insisté le premier ministre grec. Le pape François reçoit la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi. C'est dans le fil de l'agence Reuters toujours. Le Vatican et la Birmanie ont totalement rétabli leurs relations diplomatiques jeudi après un entretien entre le pape François et la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi. Cette initiative, qui n'avait pas été annoncée, va permettre au Vatican d'avoir davantage d'influence en Birmanie au moment où le pays, qui sort lentement d'une longue période de dictature militaire, est critiqué pour les exactions contre la minorité musulmane Rohingya. Le seul cardinal du pays, Charles Mongbo, estime le nombre de catholiques birmans à 700 000 dans un pays de 51,4 millions d'habitants, en très grande majorité bouddhistes. Le pape François a reçu Aung San Suu Kyi pendant 30 minutes et a remis à l'ancienne prix Nobel de la paix, qui a toujours plaidé en faveur de la résistance non violente face à la junte militaire birmane, un exemplaire de son propre livre consacré à la non-violence en politique. La dame de Rangoon, comme on appelle Aung San Suu Kyi, a été très critiquée depuis qu'elle a pris la tête l'an dernier du premier gouvernement civil depuis le coup d'État militaire de 1962. Elle a été critiquée, poursuit cet article, en raison de son silence sur les atrocités dont sont victimes la minorité des Rohingyas. En février dernier, le pape François avait vivement dénoncé les violences contre la minorité musulmane vivant près de la frontière avec le Bangladesh après la publication d'un rapport de l'ONU faisant état de massacres, viols collectifs et autres exactions commis par l'armée birmane. Cette semaine, pendant une conférence de presse commune avec Aung San Suu Kyi, la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, a apporté son soutien à l'envoi d'une mission d'enquête internationale par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, malgré les réserves émises par la Birmanie. Dans le portail indépendant Bastamag, loi travail, retraite, sous-traitance, le gouvernement brésilien passe à l'offensive contre les droits sociaux. C'est un article signé par Mathilde Dorcadi. Le gouvernement de Michel Temer, au pouvoir depuis la destitution l'été dernier de la présidente Dilma Rousseff, veut faire adopter une série de réformes qui portent atteinte à de nombreux acquis sociaux des travailleurs. La refonte du système des retraites brésilien, celui du Code du travail et la libéralisation de la sous-traitance suscitent une vive opposition de la part des syndicats et dans la population. Une grève générale d'une ampleur inédite au Brésil a été très suivie dans tout le pays le 28 avril, il y a quelques jours. Selon les organisations syndicales, près de 40 millions de personnes, près d'un cinquième de la population, a participé à cette grève générale. En cause, une réforme des retraites très pénalisante doublée d'une loi travail version brésilienne depuis son arrivée au pouvoir en août 2016, après la destitution de la présidente de gauche Dilma Rousseff et dans le contexte économique d'un pays en récession depuis la fin de 2014, Michel Temer a annoncé des réformes d'inspiration libérale très impopulaires. Après avoir fait approuver un projet de gel des finances publiques pour 20 ans, le gouvernement de centre-droit veut notamment s'attaquer au système des retraites. Son projet? Faire passer l'âge minimum de départ à 65 ans pour tous les Brésiliens. parmi les populations qui risquent d'y perdre le plus, les femmes et les travailleurs pauvres. Le projet prévoit aussi un minimum de contribution de 25 années au lieu des 15 années actuellement exigées, une règle qui va pénaliser la partie la plus précaire de la population, celle qui passe souvent une partie de sa carrière dans des emplois informels, environ 10 millions de personnes au Brésil. Donc l'article se poursuit sur plusieurs paragraphes. Si vous voulez approfondir, c'est dans le portail Bastamag. Loi travail, retraite, sous-traitance. Le gouvernement brésilien passe à l'offensive contre les droits sociaux. À propos de l'Algérie, maintenant dans le portail de Libération, libération.fr, Algérie, le pouvoir se maintient, le pays s'abstient. C'est par le journaliste Céliane Massé. Exaspérés par l'immobilisme du régime, beaucoup de citoyens algériens voient les élections législatives de jeudi cette semaine, aujourd'hui, comme un simulacre de démocratie et considèrent que le seul moyen de faire trembler le gouvernement est de ne pas aller aux urnes. Le système politique algérien semble inexorablement figé, stable, disent ses défenseurs, léthargique, rectifie ses détracteurs. Et c'est lors des élections, paradoxalement, que cette inertie est la plus criante. Les éditorialistes algériens en conviennent. Le seul enjeu du scrutin législatif d'aujourd'hui jeudi, qui doit élire ou réélire 462 députés pour un mandat de 5 ans, sera celui de la participation. En 2012, 57% des électeurs s'étaient abstenus de voter, selon les chiffres officiels. Cette fois-ci, le gouvernement a lancé une vaste campagne de lutte contre l'abstention. C'est la première préoccupation du pouvoir qui a besoin de cette légitimation populaire pour exister, explique le politologue algérien Belkacem Benzénine. L'abstention serait interprétée comme un désaccord muet, qu'importe les résultats, puisque l'opposition n'est pas en mesure de le menacer, ce pouvoir. Le régime a besoin d'une forte participation. Le pouvoir a donc actionné tous les leviers à sa disposition, écrit Libération dans cet article. La communication avec un dispositif d'affichage massif dans toutes les villes du pays. La menace, en adressant une circulaire aux médias les enjoignant de ne pas donner la parole à des partis qui appellent au boycott. Et la religion, finalement, en mobilisant des imams pour appeler les Algériens à aller voter. On poursuit cette revue de presse internationale avec une dépêche qui paraît dans le portail Mediapart, mediapart.fr. La forêt amazonienne était-elle autrefois couverte par un océan? L'exceptionnelle biodiversité de la forêt amazonienne s'expliquerait par le fait qu'elle a été en grande partie recouverte par la mer des Caraïbes il y a plus de 10 millions d'années et à deux reprises selon une étude qui vient de paraître dans la revue Science. Selon l'équipe de Carlos Jaramillo, un paléontologue de la Smithsonian Tropical Research Institute à Panama, la Colombie a été inondée une première fois pendant 900 000 ans et une deuxième fois pendant 3,7 millions d'années. Dans le fil de l'agence Reuters, épaisse tempête de sable sur Pékin et le nord de la Chine. Une vaste tempête de sable a enveloppé Pékin et le nord de la Chine jeudi, amenant les autorités à conseiller aux personnes âgées et aux enfants de ne pas sortir. Ce phénomène saisonnier apparaît généralement au printemps et voit des vents violents traverser le désert de Gobi, puis répandre un brouillard de couleur orangée sur des zones densément peuplées situées juste au sud. Le quotidien du peuple en Chine a écrit jeudi que ce brouillard de sable, qui s'ajoute à la pollution atmosphérique dont souffre déjà la capitale chinoise, devrait se dissiper dans la journée de vendredi. Et finalement, pour clore cette revue de presse internationale, un article qui paraît dans le journal Le Monde et dans de nombreux autres médias partout sur la planète. À 95 ans, le prince Philippe en Grande-Bretagne va tirer sa révérence. À 95 ans, le prince Philippe, époux de la reine Élisabeth II, va prendre sa retraite. Le palais de Buckingham a annoncé jeudi 4 mai au matin que le duc d'Édimbourg cesserait à l'automne d'accomplir la tâche qui est la sienne depuis plus de 65 ans, soit assister à des événements publics, des inaugurations, des galas de charité et autres visites où il représente la famille royale et accompagne souvent la reine dont il est l'époux depuis 1947. C'est donc sur cette actualité que se referme la revue de presse internationale pour les 4 et 5 mai. Restez avec nous à l'antenne de votre radio communautaire francophone locale. L'émission Le Débrief se poursuit dans un instant avec la revue de presse nationale. Merci d'être à l'écoute de l'émission Le Débrief des 4 et 5 mai. Nous entamons à présent la revue de presse nationale. L'indépendance du directeur parlementaire du budget est compromise. C'est le titre d'un article de Joël Denis Bellavance dans le journal La Presse. Le gouvernement Trudeau s'apprête à mettre en laisse le directeur parlementaire du budget en lui imposant de nouvelles conditions tout en lui octroyant le statut d'agent du Parlement. Le directeur parlementaire du budget est, précise cet article de Joël Denis Bellavance, reconnu comme l'un des chiens de garde des contribuables canadiens puisqu'il publie des analyses impartiales sur les coûts des programmes ou des mesures envisagées par Ottawa. Ces nouvelles conditions sont incluses dans le projet de loi C-44 visant à mettre en œuvre le dernier budget déposé par le ministre des Finances Bill Morneau aux communes le 22 mars dernier. L'une de ces conditions ferait en sorte que le directeur parlementaire du budget présente à l'avance au président de la Chambre des communes et du Sénat les études qu'il compte réaliser durant l'année. En outre, les députés et les sénateurs ne pourraient plus demander au directeur parlementaire du budget des études sur des sujets spécifiques, comme c'est le cas présentement. Enfin, le directeur parlementaire du budget serait tenu d'évaluer les coûts des plateformes électorales des partis politiques ayant une représentation à la Chambre de communes avant les élections fédérales. Les libéraux de Justin Trudeau avaient promis durant la dernière campagne électorale en 2015 d'accorder le statut d'agent du Parlement au directeur parlementaire du budget, au même titre que le vérificateur général, le commissaire aux langues officielles, le directeur d'Élections Canada ou encore le commissaire à l'éthique, entre autres. En tout, on compte actuellement 7 agents du Parlement qui ont des mandats précis accordés par le Parlement. Toujours dans les colonnes du journal La Presse, cette fois sous la plume du journaliste Maxime Bergeron, remplacement des CF-18, le faible dollar pourrait faire bondir la facture. Alors que la défense canadienne jongle avec divers scénarios en vue de renouveler ses équipements militaires, le ministère des Finances lui lance un avertissement. La facture pourrait gonfler encore plus que prévu en raison de la chute du dollar canadien, qui navigue ces jours-ci à moins de 73 cents US. Ottawa est en discussion avec Boeing afin d'acheter 18 jets Super Hornet pour répondre temporairement aux besoins de l'armée canadienne. L'estimation brute du prix d'achat de chaque avion varie entre 88 et 110 millions de dollars, révèle une analyse préparée en août dernier par le ministère des Finances et obtenue par le journal La Presse. Le document prévient que plusieurs facteurs spécifiques pourraient avoir un impact sur le coût final, dont le taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien au moment de la transaction. Or, aucune entente formelle n'a encore été signée avec Boeing et le dollar canadien est passé de 78 cents US en août dernier à moins de 73 cents cette semaine. Cette seule variation pourrait faire gonfler de plusieurs millions le prix de chaque avion Super Hornet. La valeur du dollar américain sera ce qu'elle sera au moment où on achètera les avions, mais il faut savoir qu'il y aura une transaction seulement si les conditions répondent à nos exigences, a expliqué cette semaine au journal La Presse une source au ministère des Travaux publics, responsable des achats pour le gouvernement fédéral. Dans le fil de la presse canadienne à présent, Ottawa nomme 4 nouveaux juges québécois. C'est signé par Mélanie Marquis. La ministre fédérale de la Justice, Jody Wilson-Raybould, a annoncé cette semaine la nomination de 4 nouveaux juges au Québec. Les magistrats Karen Rogers, Christine Beaudoin, Frédéric Bachand et Daniel Royer siégeront à la Cour supérieure du Québec, a-t-elle confirmé par voie de communiqué. L'arrivée de ces nouveaux juges répond partiellement aux demandes du gouvernement du Québec qui réclamait de toute urgence le pourvoi d'un total de 14 postes. Le fédéral chiffre pour sa part à 6 le nombre de sièges à combler. Le système de justice du Québec, comme celui des autres provinces, est aux prises avec une crise des délais judiciaires exacerbée par l'arrêt Jordan de la Cour suprême du Canada. Cet arrêt fixe le délai entre le dépôt des accusations et la conclusion du procès à 18 mois pour les procès criminels en cour provinciale et à 30 mois en cour supérieure. Dans le fil anglophone de la presse canadienne, on nous apprend que Thomas Mulcair, le chef sortant du Parti néo-démocrate canadien, a l'intention de voter aux élections présidentielles françaises. Thomas Mulcair a en effet la double nationalité et il a déclaré aux médias cette semaine qu'il allait voter pour le candidat Emmanuel Macron du mouvement En Marche. Il a fait cette déclaration à la Chambre des communes il y a quelques jours. Il a adhéré à la récente déclaration du Premier ministre Justin Trudeau, selon laquelle il est important de voter pour un candidat qui rassemble plutôt que pour un candidat qui divise. Et dans les pages de l'hebdomadaire L'Actualité, on a une nouvelle sur les grandes rénovations qui débuteront bientôt à la Chambre des communes sur la colline parlementaire à Ottawa. Le titre de cet article de L'Actualité, 338 députés, trois petits points et une cloche. Cette nouvelle Chambre des communes, écrit L'Actualité, est temporaire. Elle se trouvera dans la cour intérieure de l'édifice de l'Ouest sur la colline du Parlement à Ottawa. Et l'article explique qu'il y aura effectivement au-dessus de cette salle temporaire une cloche de verre. La cour, écrit L'Actualité, sera recouverte d'un toit de verre transparent doté de commandes pour filtrer au besoin la lumière du soleil. Tout le mobilier de la Chambre des communes y sera installé. Les députés fédéraux s'apprêtent à passer les 10 prochaines années sous une cloche de verre. Voilà donc la formule humoristique qu'emploie ici L'Actualité pour décrire cette installation. Le déménagement des 338 députés et ministres prévus en 2018 est rendu nécessaire en raison de la cure de rajeunissement majeure que subissent les trois principaux bâtiments du Parlement du Canada. Une grande rénovation amorcée il y a quelques années. Ces travaux, poursuit L'Actualité, comprennent le retrait de l'amiante, la restauration de la maçonnerie et la toiture, ainsi que le remplacement des systèmes mécaniques et des systèmes de technologie de l'information. Une nouvelle qui nous parvient du Québec. Le patron de l'UPAC, interrogé en commission parlementaire à l'Assemblée nationale du Québec, le patron de l'unité permanente anticorruption, l'UPAC, Robert Lafrenière, répondait jeudi aux questions des élus de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'étude annuelle des crédits du ministère de la Sécurité publique. Les députés des partis d'opposition qui s'impatientent contre l'UPAC ont de nombreuses questions pour Robert Lafrenière. Son témoignage se déroule en effet au moment où des informations sur des enquêtes menées par l'UPAC filtrent dans les médias et secouent la classe politique, avant tout le Parti libéral actuellement au pouvoir. Les médias de l'Empire québécois ont notamment fait état d'informations concernant l'enquête Mâchurée, comme on l'appelle, une enquête portant notamment sur le financement politique et l'octroi de contrats publics. Selon Québécois, l'ex-premier ministre québécois Jean Charest et l'ex-collecteur de fonds du Parti libéral du Québec, Marc Bibeau, auraient été sous la loupe des enquêteurs jusqu'à tout récemment. Une enquête interne a d'ailleurs été lancée à l'UPAC dans la foulée de ces révélations afin d'identifier l'origine de la fuite de documents confidentiels qui ont mené à la diffusion de ces informations. Ici se conclut cette revue de presse nationale pour les 4 et 5 mai. L'émission Le Débrief vous revient dans quelques secondes avec votre nouvelle francophone du jour. À tout de suite. Pour succéder aux revues internationales et nationales, voici la rubrique Francophonie pour les 4 et 5 mai. Cette nouvelle francophone nous arrive du portail de Radio-Canada. Elle concerne la francophonie ontarienne. Université francophone, un bilan positif, mais pas de promesses. C'est un texte signé par la journaliste Pascale Brignel. Les représentants d'associations francophones qui sont allés faire pression à Queen's Park pour la création d'une université de langue française en Ontario dressent un bilan positif de cette visite de deux jours. Ils n'ont toutefois pas obtenu d'engagement ferme, financier ou autre. L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, l'AFO, le regroupement étudiant franco-ontarien, le REFO, et la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, la FESFO, veulent que le dossier avance le plus rapidement possible. Ils sont convaincus que les premiers cours pourraient être offerts en septembre 2019 s'il y a une volonté politique d'y parvenir. Leurs représentants ont rencontré une députée et des ministres libéraux, du personnel politique, des députés des partis d'opposition et des membres du Conseil de planification. Ce comité, nommé par la province et présidé par l'ancienne commissaire aux langues officielles Diane Adam, doit présenter son rapport d'ici la fin du mois de juin. Le président de l'AFO, Carole Jobin, dit que la délégation a obtenu une oreille attentive des trois partis. Les partis d'opposition sont convaincus et veulent aller de l'avant, a déclaré Jobin. On a eu aussi une bonne réception du côté des libéraux, mais pas d'engagement ferme pour les échéanciers. Jobin ajoute que les associations veulent que le gouvernement annonce des mesures concrètes peu de temps après le dépôt du rapport Adam. Le temps presse notamment parce que le gouvernement sera en campagne électorale dans un an. Un changement de gouvernement risquerait d'entraîner des délais supplémentaires. Les organismes ont d'ailleurs 5 demandes très précises qui devraient, à leur avis, se retrouver dans ce rapport. Il réclame le lancement immédiat du projet, un fonds de démarrage substantiel. Il réclame aussi un plan quinquennal qui mènera à l'indépendance de la future université et des dispositions pour que l'institution soit provinciale. Nous n'accepterons pas de demi-mesure, a affirmé Yacouba Condé du REFO, ou un projet qui ne nous donne pas les ressources nécessaires. Notre but est que l'on offre aux étudiants une éducation de qualité. Alors voilà, c'était en provenance de l'Ontario francophone votre information à thématique francophone pour les 4 et 5 mai dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien. Merci de demeurer à l'écoute de votre radio communautaire francophone locale.
La vitre fracassée, quand tomber du 10e étage et avoir du temps qui passera également.
Venons d'entendre à l'instant Vincent Appleby avec une pièce intitulée « M'achever là ». C'est Alexis Gagnon en votre compagnie dans l'émission Le Débrief. L'information se poursuit. C'est le moment de passer aux nouvelles provinciales, nos nouvelles de Colombie-Britannique. Alors, on va entamer cette revue de presse provinciale tout de suite pour les 4 et 5 mai avec une nouvelle qui paraît sur le portail de Radio-Canada. Taxe sur le charbon. La Colombie-Britannique ne peut pas faire ce qu'elle veut, dit la première ministre de l'Alberta, Rachel Notley. La première ministre de l'Alberta, Rachel Notley, croit qu'il y a de fortes chances que le gouvernement de la Colombie-Britannique n'ait pas l'autorité nécessaire pour imposer une taxe sur les exportations de charbon thermique à l'Alberta. Tout a commencé avec le conflit entre les États-Unis et le Canada sur le bois d'œuvre. En représailles aux attaques de Washington, la chef de file libérale en Colombie-Britannique, Christy Clark, et première ministre sortante, a demandé à Ottawa d'interdire le transport de charbon thermique à travers sa province, dont le charbon thermique qui provient des États-Unis. En cas de refus d'agir de la part d'Ottawa, Christy Clark a proposé, en pleine campagne électorale, d'imposer une taxe de $70 par tonne sur les exportations de charbon thermique. Une taxe valable pour les États-Unis, mais aussi, par souci de logique et d'équité, selon Christy Clark, pour l'autre voisin de la Colombie-Britannique, à savoir l'Alberta. Évidemment, a déclaré la première ministre de l'Alberta, Rachel Notley, nous sommes opposés à cette taxe et nous pensons, en fait, que Christy Clark n'aura pas l'autorité pour l'imposer. La première ministre de l'Alberta a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse mercredi, estimant qu'il s'agissait d'une mauvaise nouvelle pour les Albertains. Toujours dans le portail britanno-colombien de Radio-Canada, des dizaines de barrages illégaux dans le nord de la Colombie-Britannique. Le Centre canadien de politique alternative assure, dans un rapport dévoilé cette semaine, avoir découvert des dizaines de barrages illégaux dans la région de la Rivière de la Paix, dans le nord-est de la Colombie-Britannique. Le groupe de réflexion réputé à gauche de l'échiquier politique affirme qu'ils sont utilisés, ces barrages, par des entreprises gazières pour former des bassins de rétention d'eau. Cette même eau est ensuite utilisée pour la fracturation sans aucun permis. Typiquement, indique le rapport, les entreprises devraient dans un premier temps demander des permis d'exploitation de l'eau, puis déposer les plans du barrage tels que les autorités le requièrent. Rien de tout cela n'a eu lieu. Parmi les exemples que cite l'auteur du rapport Ben Parfit, deux barrages de l'entreprise Progress Energy construits en 2012 et 2014 et qui auraient dû faire l'objet d'une demande auprès de l'Office d'évaluation environnementale de la province de Colombie-Britannique pour approbation. Les structures font plus de 15 mètres de haut, a déclaré Ben Parfit, soit un peu plus qu'un immeuble de 5 étages. Et bien après les faits, elles sont en ce moment devant l'Office d'évaluation environnementale pour être révisées. Donc vous trouverez cette nouvelle dans le portail de Radio-Canada, des dizaines de barrages illégaux dans le nord de la Colombie-Britannique. On reste sur le portail de Radio-Canada. La GRC priait de s'excuser après l'interpellation injustifiée d'une adolescente. Les parents d'une adolescente demandent des excuses à la Gendarmerie royale du Canada de Surrey, en Colombie-Britannique, après qu'elle eût été menottée et plaquée au sol sans raison. La jeune fille avait été prise pour une autre personne. « Ma fille n'a rien fait de mal », a déclaré le père Gary Auguste. « Elle était en route pour trouver son premier emploi, ce que tous les parents aimeraient voir pour leur enfant. » La scène est visible dans une vidéo de 4 minutes diffusée sur les médias sociaux qui a été vue près de 80 000 fois. On peut y voir deux agents de la GRC maintenant l'adolescente à terre, tandis que celle-ci crie qu'elle n'est pas la personne qu'ils recherchent. Les deux agents cherchent alors les papiers de l'adolescente dans son sac avant de la relâcher. Le père de la jeune fille s'est insurgé. « Vous n'avez pas le droit de toucher quelqu'un qui n'a rien fait sans même l'avoir identifié », a-t-il déclaré dans cet article de Radio-Canada. La GRC, de son côté, poursuit l'article, a confirmé qu'un incident s'était produit le 28 avril et qu'une enquête était en cours. Toujours sur le portail de Radio-Canada, école surpeuplée, une annexe pour l'école Rose-des-Vents. Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, le CSF, a annoncé cette semaine qu'il louera l'annexe Anderson de la Commission scolaire de Vancouver. Ce texte est signé par Maryse Bernard dans le portail britanno-colombien de Radio-Canada. Le secrétaire trésorier du CSF, Sylvain Allison, a expliqué cette semaine lors d'une entrevue à l'émission Far West que la location permettra au Conseil d'aider et de résoudre temporairement la situation qui s'est vit depuis plusieurs années à l'école Rose-des-Vents. Et on passe maintenant dans les colonnes du journal Métro, une nouvelle qui nous arrive de Montréal, mais qui est en résonance, en forte résonance avec l'actualité de la Colombie-Britannique. Vous allez voir, Projet Montréal veut prévenir une potentielle bulle immobilière à Montréal. L'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal souhaite que la ville se dote d'outils fiscaux pour prévenir une éventuelle spéculation immobilière étrangère dans la métropole québécoise. Donc ça vous paraîtra sans doute familier si vous avez suivi l'actualité de Colombie-Britannique. Donc la formation politique Projet Montréal a déposé une motion au conseil municipal qui sera débattue le 15 mai au cours de la prochaine séance du conseil municipal. Le parti souhaite convaincre les élus municipaux d'interpeller le gouvernement du Québec afin d'éviter une flambée généralisée des prix de l'immobilier. Alors qu'une taxe de 15% pour les acheteurs étrangers a été mise en place à Vancouver afin de limiter la flambée des prix en Colombie-Britannique et qu'une telle mesure a été proposée à Toronto, Projet Montréal craint que ses investisseurs étrangers ne se dirigent désormais vers la métropole québécoise. On doit être proactif, a assuré mercredi Valérie Plante, la chef de l'opposition à Montréal. Montréal doit absolument prévoir le coup et doit demander à Québec les pouvoirs pour agir avant d'être dans la même situation que Toronto et Vancouver. Et rappelons ici au passage que le conseil municipal de Victoria souhaite lui aussi obtenir une taxe de 15% et en a fait la demande au gouvernement provincial de Colombie-Britannique. Justement, à propos de Victoria, plus près de chez nous, dans les colonnes du média VicNews.com, Victoria News, sous la plume de la journaliste Kendra Wong, on indique que la police de Victoria est toujours en train d'enquêter à propos du colis suspect qui avait été repéré dans la parkade de la rue Yates à Victoria. Donc, ce paquet suspect a été détruit par les services de police de la ville de Victoria. Donc, il y a différents articles dans la presse locale pour signaler ce fait divers. Et pour terminer cette revue de presse provinciale dans le portail indépendant de Taï, notre portail indépendant ici même sur l'île de Vancouver, on a quelques manchettes fort intéressantes sur la campagne électorale qui bat son plein ici en Colombie-Britannique actuellement. Je commence par la première du lot. BC Liberals have now returned nearly $250,000 in illegal donations. Donc, cette manchette nous apprend que le parti de Christy Clark, les libéraux de la Colombie-Britannique, ont rendu $250,000 en dons illégaux au cours des dernières semaines. C'est sous la plume du journaliste Andrew McLeod dans le Taï. Une autre manchette, Christy Clark's Club, Kings and Queens of the Crown. Donc, cet article donne le topo sur les nominations aux sociétés d'État de la Colombie-Britannique et révèle que plusieurs des dirigeants des sociétés d'État de la province sont en fait des amis de la première ministre Christy Clark. Donc, c'est dans le Taï que vous trouverez cette information également. Autrement, on a une autre manchette toujours sur le Taï. Why many First Nations want a new premier in BC? Pourquoi de nombreuses Premières Nations en Colombie-Britannique désirent qu'un nouveau premier ministre soit élu lors des élections du 9 mai? C'est sous la plume de la journaliste Judith Sayers. C'est dans le Taï, à l'adresse de taï.ca. Donc, ce sont des articles que je vous recommande pour refermer cette revue de presse provinciale. Mon nom est Alexis Gagnon. Vous écoutez Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 dans toute la grande région de Victoria. On fait une courte pause et au retour, on s'intéresse à la météo des prochains jours.
J'entends souvent cette voix. Qui habite en toi. Je les entends toujours, tu vois. Des éclats de rire figés par le froid. Il me blesse maintenant. Que tu ne te souviens.
Vous écoutez l'émission Le Débrief à l'antenne du 107.9 FM dans la grande région de Victoria. Merci d'être à l'écoute de votre radio communautaire francophone locale. C'est Alexis Gagnon en votre compagnie pour les prochaines minutes. Il reste encore quelques instants à cette émission. On vient d'entendre en musique l'artiste Claude Pelgag avec la pièce « Samedi soir à la violence », l'une de ses pièces les plus populaires de son dernier album. On va s'intéresser maintenant à la météo. Si vous nous écoutez en fin d'après-midi jeudi, vous le savez, pas besoin de vous faire un dessin. On a eu une très belle journée sur Victoria, l'une des premières journées véritablement estivales. 20 degrés avec le soleil triomphant sur Victoria. Donc ça va rester dégagé au cours des prochaines heures. Il y a toutefois pour la soirée un risque d'orage. Ça pourrait se compliquer plus tard en soirée pour ceux qui nous écoutent dans la fin d'après-midi du jeudi 4 mai. Météo.gc.ca nous indique qu'il y aura 70% de probabilité d'averse en soirée et durant la nuit. Pour vendredi 5 mai, ça va être nuageux, 13 degrés avec des averses. Samedi, le week-end est mitigé, 13 degrés avec un mélange soleil-nuage, 40% de probabilité d'averse. Dimanche 7 mai, du soleil, aucun nuage à l'horizon, nous indique le portail d'Environnement Canada, un maximum de 15 degrés pour dimanche. Donc voilà pour le petit topo météo. C'est la fin de l'émission dans quelques minutes. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir passé ces 60 minutes en notre compagnie dans votre rendez-vous info quotidien, Le Débrief. On se retrouve bien sûr demain, même heure, même fréquence. Et pour ceux qui nous écoutent dans la matinée de vendredi, ça ira à lundi. À très bientôt.
regard froid et fixer l'horizon. Et le vide qui s'ensuit, le vertige de perdre encore une heure, de m'oublier pour toi, de m'étourdir le cœur. Et te voir t'en aller encore une fois, et devoir supplier
SFM, la voix de votre communauté.
Le premier atelier Souvenance, Reconnaissance, offert par l'Association historique francophone de Victoria, se tiendra le 9 mai aux nouveaux locaux de la Société francophone dès 17h30 au 1218 rue Langley. Un casse-croûte sera servi. Cette activité est rendue possible grâce à une subvention du programme Nouveaux Horizons qui s'adresse aux 55 ans et plus, membres ou non membres, de l'association historique. Réservez votre place en téléphonant au 250-507-8305 ou en écrivant à mhbourret@commercial.ahs.